série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, conte, morale, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Range ses affaires dans son sac de voyage qui se trouve sur une chaise. La porte s'ouvre. C'est son père. Il est en pyjama et robe de chambre bordeaux. Il s'avance vers son fils.
Alors, tu t'en vas? C'est vrai?
Jacques lève la tête et voit son père, petit, maigre, la mine défaite, cheveux gris, yeux qui lui sortent de la tête. Oui, je m'en vais.
Pourquoi?
Je te l'ai dit plus de 100 fois, je veux vivre ma vie, avoir un chez moi.
Et ici, ce n'est pas chez toi?
Non, père, ici c'est chez toi. Et il continue à ranger ses affaires. Père a les larmes aux yeux.
Et si je te louais une chambre?
Ça ne changerait rien, père.
Mais que vais-je devenir, moi, tout seul, dans cette grande maison?
Il soupire.
Depuis que ta mère n'est plus là, tu ne te sens pas bien ici. Tu n'aimes pas, tu n'aimais que ta mère. Elle m'a jamais aimé.
Mais si, père, cela n'a rien à voir. J'ai besoin de vivre ma propre vie.
Et moi, j'ai besoin de finir la mienne, le mieux possible, tu comprends? Mais qu'importe qu'une personne comme moi, qu'un vieux comme moi, finisse ses jours convenablement. Ta mère et moi, nous aurions dû avoir plusieurs enfants. On avait eu 3 ou 4, il m'en aurait resté au moins un. Ça aide bien à vieillir la jeunesse autour de soi. Maintenant, je vais me retrouver seule. Comme un vieux. Il ne reste plus qu'à attendre la mort.
Mais tes pères, Vous entendre parler, on dirait que vous êtes un vieillard. Vous n'avez que 50 ans.
Mais les années passent vite.
Choc ferme sa valise. La prend. Ne faites pas cette tête-là. Et il sort de la chambre. Son père le suit. Il longe le couloir. Se dirige vers la porte palière. Il va vers la porte, Jacques se retourne et pose sa valise. Prend son père dans ses bras. Jacques est beaucoup plus grand et fort que son père. Le père a l'air petit et maigre contre lui. Ne vous en faites pas, père. Je viendrai vous voir une fois par semaine. Il l'embrasse sur la joue. Soignez-vous bien. Se retire, prend sa valise et sort de l'appartement. La République, où son père habite, est pleine de monde. Jacques se sent bien. Nous sommes samedi. Une nouvelle vie commence pour lui. En sortant de l'armée, cela faisait 3 mois qu'il avait décidé de vivre seul. Il ne supportait plus les gérégnades de son père. Il n'avait aucune indépendance, même pour l'argent. C'est à son père qu'il devait en demander. Il y a 1 mois, il a trouvé du travail chez un imprimeur. Il y a 1 semaine, il a dit à son père qu'il voulait partir. Jacques décide d'aller chez son ami Didier. Attendant que je trouve une chambre, il m'hébergera bien. Didier habite rue Barrier, dans un petit immeuble neuf de 3 étages. Il a un studio. À l'appartement d'Didier, qui lui ouvre surpris. Et en slip et chaussettes. Salut Didier.
Salut Jacques.
Je te dérange?
Non, entre.
Jacques entre dans un petit couloir, il y a un placard mural et une porte. Ouvre la porte et le fait entrer. C'est une pièce avec un lit à bâtable. Le lit est ouvert et défait. Au milieu de la pièce se trouve une table ronde avec autour 4 chaises. Il y a un coin cuisine, une porte qui mène dans la salle de bain WC et autour, sur les murs, des rayonnages. Les meubles sont en bois blanc. La pièce est en désordre. Des vêtements traînent à terre et sur les chaises. La table a des assiettes sales et des miettes. L'évier est plein de vaisselle à laver. Des piles de livres sont sur le sol. Didier se rallonge sur le lit. Il dit à Jacques de prendre une chaise et de s'asseoir à côté de lui. C'est ce qu'il fait.
Dormi de la nuit,
J'ai passé toute la soirée au globe. » Didier se met les mains derrière la nuque. Il est un peu plus petit que Jacques, mince, une peau très blanche avec une abondante chevelure noire. Il paraît un peu moins que ses 18 ans. Jacques en a 21. Après avoir soufflé un bon coup, Jacques commence. « J'ai quitté mon père. »«
Ah ! » !»«
Oui, j'en avais assez de dépendre de lui. Et puis, depuis la disparition de mère, il était toujours après moi. »
Et que vas-tu faire maintenant?
Je ne sais pas.
Tu as du travail? De l'argent?
J'ai trouvé un petit boulot chez un imprimeur. Et en partant, j'ai demandé une partie de l'héritage de ma mère. Jacques lui montre son portefeuille qui était dans la poche de son blouson de cuir noir. Plein de billets. M'en a donné une partie en liquide. Il le remet dans la poche de son blouson.
Et tu sais où habiter?
Non, je pensais que tu pourrais m'héberger quelques jours le temps que je trouve une chambre.
Je suis petitement logé, mais je veux bien si c'est pour quelques jours. Tu coucheras dans les couvertures au milieu de la pièce. Ça te va?
Oui, merci. Jacques se lève soulagé. Il quitte son blouson et va dans la salle de bain WC. Pour que la porte est fermée, Didier se lève. Sort de la poche du blouson de Jacques le portefeuille et le met en haut du meuble lit. Puis retourne se coucher. Jacques revient et s'assoit.
Il est quelle heure ?
Demande Didier.
Midi et quart. Je vais me lever et prendre mon petit déjeuner.
Après avoir pris son petit déjeuner, il décide d'aller faire un tour sur les quais du Rhône. Jacques et Didier aiment beaucoup marcher. Ils n'aiment pas prendre les transports en commun. Après une heure de marche, ils se sont assis sur un banc. J'ai bien envie, c'est de mettre de côté mon argent. Je ne veux pas faire comme certains dans ma boîte. Ils font que demander des acomptes. Lundi, je mettrai l'argent que m'a donné mon père à la caisse d'épargne. Il cherche dans ses poches son portefeuille. Et le regarde faire comme si de rien. Jacques, surpris, se lève, quitte son banc, re-regarde dans ses poches. Mince alors, où est mon portefeuille? Il regarde à terre, autour de lui, sur le banc. Il se gratte la tête et la relève. Regard pensif, cheveux châtains, courts, en brosse. Regard inquiet sous des lunettes en métal. Mince alors, où ai-je pu bien mettre mon portefeuille? J'ai dû le faire tomber chez toi. Il regarde Didier, qui ne dit rien. Si l'on rentrait, Didier se lève et il s'en retourne. Arrivé au studio, Jacques cherche à terre et sous le lit le portefeuille. L'on sonne à la porte. Didier, soulagé, va ouvrir. Un homme de 25 ans, grand, fort, brun, en costume beige. Didier parle.
Salut Didier.
Il entre.
T'es surpris de me voir, hein? Eh oui, malgré la fausse adresse que tu m'as donnée, j'ai réussi à te retrouver. Maintenant c'est joué, mon petit. Donne-moi l'argent, ou je te casse la figure et je vais chez ton père.
Jacques s'est relevé et assiste à la scène médusée. Didier prend la chaise, la met vers le meuble lit. Monte dessus et prend sur le toit du lit le portefeuille de Jacques. Descend de la chaise. Ouvre le portefeuille et prend les billets. Compte et donne presque tout l'argent à l'homme. L'homme les compte encore. Il met l'argent dans sa poche.
Ça va !
Et il sort. Didier donne le portefeuille à Jacques.
Tiens.
Jacques le met dans son blouson. Didier se recouche. Jacques s'assoit sur la chaise qui est à côté du lit. Silence profond et pesant. Didier n'ose pas regarder Jacques. Jacques se lève. Prend un bouquin à terre et retourne s'asseoir. Il ouvre le livre qu'il a pris. Hasard, c'est les faux monnayeurs de Gide. Jacques lit deux pages. Didier le regarde faire, surpris de ce calme, comme si de rien ne s'était passé. C'est encore plus terrible et dur que s'il y avait eu une dispute, une bagarre. Ça fait encore plus mal, car on a l'impression que rien n'est réglé, que l'on aura toujours cette faute, dette, que l'on ne saura jamais pardonner. C'est l'enfer. Didier a la gorge serrée.
Jacques, pourquoi n'as-tu rien dit ?
Jacques ferme le livre. Scott, tu étais suffisamment ennuyé.
Tu ne me demandes pas pourquoi?
Je ne suis pas curieux.
J'ai emprunté de l'argent parce que je voulais m'acheter un synthé. Je croyais que mes parents allaient me permettre de rembourser un petit peu chaque mois. Mais ils n'ont pas voulu. Cela faisait 6 mois que le gars attendait son argent. Et puis je ne voulais pas qu'il aille chez moi. Mon père aurait fait une vraie scandale. Tu m'en veux?
Non.
Je te rembourserai, je te le promets.
Je te demande rien.
Didier se soulève.
Il lui dit,
tu es chic, pourquoi es-tu si bon?
Jacques hausse les épaules.
Je ne suis pas bon, je ne veux pas compliquer les choses. La vie est suffisamment compliquée comme cela. Je ne juge pas. Aujourd'hui j'ai fait une mauvaise action en quittant mon père. Mais si je ne l'avais pas faite, c'est mon père qui aurait fait une mauvaise action. En m'empêchant de vivre comme je l'entends. Toi, tu as fait une mauvaise action en me volant, mais ça t'a permis de rembourser tes dettes et puni le fils indigne que je suis. Quelquefois le mal est nécessaire pour faire le bien. Moi, en faisant du mal à mon père, je l'ai empêché de mal agir.
Le bien, le mal, c'est pas cela qui compte, c'est jusqu'où cela nous mène. Une bonne action peut être nuisible, et une mauvaise, bonne.
Didier se rallonge.
C'est compliqué ton truc.
c'est la vie. Semaine plus tard, Jacques est toujours chez Didier. Didier poursuit ses études au lycée. Il est un peu en retard et ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Pour le moment, il n'y a que la musique rock qui l'intéresse. Il fait partie d'un groupe et joue de la guitare une fois par semaine. Il travaille toujours chez un imprimeur et coupe des cartons avec une grande cisaille. Ils prennent ensemble leur petit déjeuner et partent pour la journée. Ils se retrouvent vers les 19h. C'est Didier qui prépare le repas du soir. Après le repas, il passe sa soirée à lire. Après 3 jours de cette vie, Didier aimerait se retrouver seul. Mais au bout d'une semaine, Jacques est encore là. Il n'ose pas le mettre à la porte après ce qu'il a fait. Il lui demande même pas une pension, ce qui fait que la pension file 2 fois plus vite. Jacques ne semble pas pressé de chercher un appartement. Un jour, Jacques se trouve au chômage. Il n'a plus d'argent. Didier se sent obligé de lui donner un peu d'argent de poche. La bonne action de Jacques s'est transformée en mauvaise action. Didier est devenu sa victime. Jacques ne cherche pas du travail. Non, il reste toute la journée chez Didier. Cela agace Didier, mais il n'ose rien dire. L'ennui donne à Jacques de l'appétit. Et dans la journée, il vide le réfrigérateur. Ce n'est pas lui qui va faire les courses. Cela irrite Didier, mais il n'ose rien dire.
Pas la peine d'en parler. 50 mètres carrés, une baie vitrée, vue sur le parc, soleil toute la journée.
Ah, tu rigoles, de nous là.
Oh bon, allez. Il n'y a pas de baie vitrée, il n'y a pas de parc.
Un soir, Didier et Jacques sont à une soirée chez un copain à Didier. Durant la soirée, Didier rencontre une charmante jeune fille de 18 ans, grande, mince, blonde, et est habillée d'une robe beige pâle.
C'est vrai que mon mot est charrier parce que moi je passe pas la nuit ici. Hein. Parlant de charrier, là, je pense pas que toi tu charries.
Jacques est toujours à côté de Didier. Cela irrite la fille. Tu n'es jamais seul. Tu as toujours ton copain avec toi. Il ne peut pas nous laisser seuls un instant. C'est-à-dire qu'il est timide. Elle soupire et dit : il est plutôt chiant. Didier le pense aussi. Mais comment faire pour s'en débarrasser ? Rentrant chez lui, il lui dit : t'aurais bien pu me laisser seul avec la fille. Oui, je comprends, je suis de trop. Mais si j'avais de l'argent, je m'en irais. Jacques a pris froid. Didier le soigne, il a acheté des médicaments et lui a donné son lit. Lorsque Didier veut recevoir une personne, il est obligé de l'inviter chez un copain qui a une chambre et la lui prête. Jacques est guéri, mais comme Didier n'ose pas le lui demander, il garde son lit. Didier, la nuit, il ne dort pas. Il réfléchit.
Comment faire pour me débarrasser de ce mec? Il vit à mes crochets. Je n'ai plus de vie privée. Je ne suis plus chez moi. Quelle idée j'ai eue de lui avoir pris son argent. J'ai plus dépensé pour lui que ce que je lui ai pris.
Il soupire.
Je ne peux tout de même pas le tuer. Que je lui rembourse. Mais comment ?
Après une nuit de réflexion, il sait ce qu'il doit faire. Le samedi, en soirée, il dit à Jacques qu'il doit sortir seul. Où vas-tu ?
J'ai rencontré une fille.
À 22h, Didier sort de chez lui. Il prend la voiture qu'un de ses copains lui a prêtée. File en direction de Charbonnières. La voiture s'arrête devant le portail d'une propriété privée qui donne dans un parc où au fond se trouve une grande maison du 19e. Didier sort de voiture pour ouvrir le portail. On retourne vers la voiture. Met en route et entre dans la propriété. Arrivé devant la maison, il s'arrête. Sort de voiture et va ouvrir la porte d'entrée. Claire, il monte un grand escalier de marbre. Il va jusqu'au premier. Puis un couloir. Ouvre une porte. Claire, c'est une chambre bleu pâle. Meublé Louis XV, la pièce a une odeur de parfum délicat. Didier entre. Se dirige vers la coiffeuse. Ouvre un tiroir. En sort un coffret en argent martelé. Il l'ouvre. Dedans se trouvent des bijoux, colliers, bagues, bracelets. Il fouille dedans. Sort une petite bague avec un diamant.
Ceci doit suffire.
Il prend la bague, la met à son petit doigt. Il regarde son petit doigt un moment.
Pardonne-moi, mère. Que puis-je faire d'autre? Et puis, comme dit Jacques, une mauvaise action peut devenir une bonne action.
Il range le coffret. S'apprête à sortir de la chambre.
Tout à coup,
il entend un bruit de voiture qui s'arrête.
Portière qui s'ouvre.
Mon Dieu, ils sont de retour.
La porte d'entrée qui s'ouvre.
Didier, mon chéri, tu es là?
Des pas qui montent.
Didier, j'ai vu une voiture. Où es-tu, mon amour?
Des pas dans le couloir. La porte qui s'ouvre.
Que fais-tu là, mon chéri?
Didier fond en larmes.
Le prend dans ses bras, lui caresse ses cheveux.
T'es donc tant manqué? Oui, je comprends. Je suis heureuse que tu aies envie de venir. En ne me voyant pas, tu es venu tout penaud ici, sentir mon odeur comme lorsque tu étais petit. Si, tu sais comme tu m'as manqué à moi aussi, mon Didier.
Elle l'embrasse sur le front. Il la regarde. Elle est grande, mince, blonde, a un manteau de fourrure crème, des talons noirs et un sac en croco. Elle ne fait pas ses 40 ans.
Mon petit Didier, c'est le plus beau cadeau qui soit. En venant me voir comme cela, sans prévenir. Je t'ai donc tant manqué.
Didier a les larmes aux yeux.
Écoute, mon petit, reviens me voir demain. Il faut que je parte. Ton père et moi sommes en bridge. Je suis tout simplement passé pour prendre les comprimés de ton père. Je dois me dépêcher.
Elle l'embrasse. Ils sortent de la pièce. Suivent le couloir et descendent des escaliers. Va à la sorbe de bain prendre les comprimés. Et ils sortent.
Me manque tellement, si tu savais. Je suis heureuse que tu penses à moi. Tu as envie de me voir, même durant la nuit.
Elle l'embrasse. Ils prennent chacun leur voiture et partent. Sur le chemin du retour, se sent tout penaud.
Je n'ai plus envie de vendre la bague. Je la lui rendrai demain matin en allant la voir. Encore une mauvaise action qui se transforme en bonne action.
Il soupire.
Mais que vais-je faire de Jacques?
Le matin, trouver sa mère et Jacques reste au studio. Dans la matinée, la concierge lui dit qu'on le demande au téléphone.
Allô, Madame Robert, la voisine de votre père. Il faut que vous passiez chez votre père le plus rapidement possible. Il a eu une attaque.
Il ouvre la voisine.
Entrez, monsieur.
Jacques entre. Le mène dans la chambre de son père. Il est au lit et semble dormir. Jacques s'approche du lit. Voit qu'il ouvre les yeux.
C'est toi, Jacques.
Oui, père.
Tu es heureux de savoir. J'ai eu une indisposition, mais ça va aller. On m'a mené à l'hôpital, j'ai voulu rentrer chez moi. Après examen, ils ont accepté. J'ai beaucoup réfléchi depuis ton départ et j'ai compris beaucoup de choses. J'étais impossible avec toi et je te promets que si tu veux revenir vivre avec moi, que je ne serai pas toujours à t'embêter. Veux-tu revenir ?
Jacques hésite une seconde, mais n'ose pas dire non à son père malade. Oui, père, je veux bien. Soirée, Jacques annonce son départ à Didier. Didier respire. Il a remis en cachette de sa mère la bague. D'ailleurs, qu'en aurait-il fait ?
Te remercie pour tout, Jacques.
Moi aussi, Didier. Tu m'as hébergé et j'en avais bien besoin étant au chômage. Avec l'argent que j'avais, ça n'aurait pas suffi. En vivant avec mon père, je retrouverai du travail facilement avec les relations qu'il a. Didier soupire.
Tu sais, Jacques, je ne regrette pas ton passage dans ma vie. Cela m'a permis de payer mes dettes et de renouer avec ma mère.
Un mois plus tard, le père de Jacques mourait et laissait une petite fortune à Jacques, dont son appartement. Un ami du père l'a pris dans son magasin comme livreur. Didier, à une soirée qu'organisait sa mère, a rencontré une charmante jeune fille. Il l'aime, décide de se remettre sérieusement aux études. Quelques années plus tard, Didier s'est marié avec la jeune fille et travaille chez son beau-père comme employé de banque. Il regrette d'être marié, sa femme il ne l'aime plus, c'est une coquette sans cervelle. Il s'ennuie à mourir dans sa vie petit employé fiseur bourgeois. Jacques, lui, vit seul, entouré du souvenir de son père. De toute sa vie, il a été libre que les quelques mois qu'il a passés chez Didier. Thank you. Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Conte, morale. Production, mise en chaîne, Julien Jean-Pierre.